Un conte de fées peut vite se transformer en cauchemar. La princesse Stéphanie de Belgique en a fait la triste expérience. La deuxième fille du roi Léopold II était promise à un destin prestigieux et pour cause, en épousant le séduisant archiduc Rodolphe d'Autriche-Hongrie, Stéphanie de Belgique allait devenir impératrice. Le couple devait succéder à l'empereur austro-hongrois François-Joseph et à son épouse Sissi. C'était écrit, négocié même entre Bruxelles et Vienne. Et pourtant, son mariage est loin d'être heureux. Son époux l'archiduc Rodolphe, dépressif et suicidaire, s'avère aussi très vite fort peu fidèle. Une nuit d'hiver, il est même retrouvé mort en compagnie de sa très jeune maîtresse du moment. Les deux corps gisent dans un lit du pavillon de chasse de Meierling. Ce village se situe au sud-ouest de Vienne. Le mystère demeure toujours sur les circonstances exactes du drame. Parlons d'histoire revient sur un destin brisé, sur un scandale qui poussa injustement la princesse Stéphanie de Belgique dans un veuvage honteux et finalement dans l'oubli.
Parlons d'histoire, Dorian Deméus.
Pour évoquer la princesse Stéphanie, je reçois Patrick Weber. Bonjour Patrick.
Bonjour Dorian.
Alors je rappelle que vous êtes journaliste et auteur du livre Patrick Weber raconte les princesses de Belgique et également Patrick Weber raconte les couples royaux de Belgique, des livres parus aux éditions Kenes. Alors comme de coutume dans Parlons d'Histoire, reprenons les faits depuis le début. Tout commence le 21 mai 1864 au château royal de Laeken. Ce jour-là, l'épouse du roi Léopold II, Marie-Henriette d'Autriche, donne naissance à son troisième enfant après Louise et Léopold. Voilà Stéphanie. Vu qu'il y avait déjà un grand frère, donc dans cette famille, la succession semblait assurée. Mais cette naissance, Patrick, ne réjouit pas pour autant le souverain des Belges.
Non, Léopold voulait vraiment avoir des héritiers mâles, puisque, vous le savez, la loi qu'on qualifie de salique était d'application en Belgique, donc il était important d'avoir de garantir la succession. Donc il était très très heureux après la naissance de Léopold, mais forcément, il fallait avoir un plan B, je veux dire, en cas de problème, et malheureusement, ça a été le cas. Donc, elle arrive dans une famille, en fait, un peu étrange, avec un Léopold qui n'est pas spécialement très amoureux de son épouse Marie-Henriette. Marie-Henriette qui se demande un petit peu dans quel piège elle est tombée. Son caractère va très vite évoluer d'ailleurs parce que quand elle arrive, elle est assez primesautière, elle est assez gaie, enjouée, elle aime la nature, elle aime les chevaux, elle aime elle aime rire. Le problème c'est que Léopold trouve qu'elle rit très mal, qu'elle a un rire rauque insupportable. Elle le trouve très raide, hein, comme on dirait safe à Bruxelles, en gros c'est ça.
Ouais, ouais.
Mais ça, l'a appris plus tard. En fait, c'est un couple très très mal assorti. Et elle sait ce qu'on attend d'elle, en fait, c'est de donner des héritiers, donc un minimum de filles, un maximum de garçons. Donc je dirais, l'arrivée de Stéphanie, c'est pas une tragédie nationale, bien sûr, mais c'est pas non plus le feu d'artifice global.
Donc quand elle a 5 ans, vous l'avez dit, la petite Stéphanie apprend le décès de son frère Léopold. Mmh. Le fils unique du roi souffrait d'une pneumonie contractée après une chute dans un étang. Alors cette mort représente une tragédie personnelle d'abord pour la princesse, mais aussi un drame pour la succession directe de Léopold II, puisque la loi ne prévoyait pas à l'époque qu'une princesse puisse monter sur le trône.
Oui, c'est une véritable tragédie avec une fratrie qui est assez unie. Et ça, on insiste trop peu d'ailleurs là-dessus quand on raconte l'histoire de cette famille. C'est que vraiment, il y avait les adultes. Alors, vous allez me dire, c'est normal au 19e siècle à plus forte raison dans une famille aristocratique et encore à plus forte raison dans une famille royale, c'est-à-dire que les adultes vivent de leur côté et les enfants vivent de leur côté. Et vous avez des intermédiaires entre ces deux mondes, qui sont vraiment deux mondes, qui sont les gouverneurs, les gouvernantes, les précepteurs, et ça, vraiment, je veux dire, qui jouent vraiment ce rôle de tampon. Mais Louise, Léopold et Stéphanie sont assez unis, c'est une véritable fratrie, d'autant plus que leur enfance n'est pas vraiment marrante, ça, c'est un euphémisme de le dire, c'est-à-dire Léopold est très très exigeant. Alors forcément, il est très heureux d'avoir un fils, mais malgré tout, il se montre assez sévère avec les trois. Mais ça peut vraiment concerner tous les petits moments de la vie. C'est-à-dire, on va pas voler les fruits dans le verger à Laeken, on dort les fenêtres ouvertes, on ne parle pas à table. Enfin, toutes ces choses qui avaient aussi fait partie d'ailleurs de la jeunesse de Léopold. Et il a dupliqué, il a reproduit le système d'éducation qu'il avait reçu de son père. Et il l'a appliqué pour ses enfants, ce qui veut dire aussi qu'il y a une certaine distance. enfance. Alors, plus tard, les filles vont se souvenir, par exemple, à un moment d'avoir reçu une fleur de leur père, mais ça va vraiment rester comme le climax, en fait, de la proximité parent-enfant. Et petit à petit, Marie-Henriette va aussi devenir de plus en plus rigide dans un premier temps, jusqu'à en devenir totalement acariâtre, mais ça, ce sera plus tard.
Oui, parce qu'en fait, le couple ne fonctionne pas très bien.
Pas du tout. Pas du tout, c'est un mariage tout ce qu'il y a de plus politique, mais ça non plus, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, d'autant plus que la Belgique est jeune, avec c'est un pays jeune, c'est une monarchie jeune, c'est une dynastie très jeune aussi, qui doit s'imposer. Et pour s'imposer, elle n'a qu'une seule solution, c'est vraiment contracter des alliances. Des alliances, en fait, qui peuvent servir à cette dynastie à s'installer, je dirais.
Consolider la monarchie.
Et à consolider cet édifice qui reste malgré tout assez fragile. Alors, Léopold Ier, il avait construit les choses, il avait posé les fondations. Léopold II, il a toujours voulu régner. Dès sa plus tendre enfance, il est obsédé par cette envie de régner. Il est persuadé qu'il fera mieux que les autres. Il est persuadé qu'il fera mieux que son père. Alors, les femmes ne jouent aucun rôle dans cette affaire, donc, ni sa mère, dont il était pourtant très proche, mais, et surtout pas son épouse, dont il n'a absolument pas grand-chose à faire, et surtout rien à faire au niveau politique. Hein. Et lui, il estime qu'il doit jouer ce rôle et transmettre ce flambeau. Et donc, il doit, pour ce qui est de son fils, lui enseigner l'art d'être roi, ce que son père, d'ailleurs, n'avait pas vraiment fait avec lui. Et puis, avec ses filles, eh bien, il doit simplement trouver les bons candidats pour établir de belles alliances qui vont permettre au Cobourg de se hisser, en fait, à la hauteur des autres grandes dynasties européennes. Et à l'époque, les grandes dynasties européennes, mais en fait, celles qui comptent, il y a encore surtout les Habsbourg au premier plan.
Alors, juste avant de parler de cette alliance, que sait-on de son adolescence à la princesse Stéphanie et de sa formation ?
En fait, elle a une formation, enfin, c'est un peu la même chose pour Louise et Stéphanie, d'ailleurs une formation qui n'en est pas vraiment une, c'est-à-dire que foncièrement, on leur demande d'être des princesses à marier. Qu'est-ce qu'on attend d'une princesse à marier ? Eh bien, c'est de savoir jouer de la musique, d'avoir une bonne éducation religieuse, de pouvoir un peu se débrouiller en langue, mais encore, c'est pas vraiment la priorité pour les deux aînés. Mais bon, il n'est pas vraiment question. Alors oui, il y a forcément une formation qu'on qualifierait aujourd'hui de culture générale, en fait. Mais on se méfie aussi des jeunes femmes à l'époque qui veulent être trop intellectuelles. Alors, il n'y avait aucun risque avec Louise, qui n'a jamais été une grande intelligence. Stéphanie est un peu plus... c'est même une certitude. Elle est plus intelligente que sa sœur, elle est plus douée pour les études, mais elle est plutôt intéressée par ce qui concerne les affaires religieuses, et puis alors, elle essaye de faire plaisir à papa et à maman. En clair, c'est ça. Mais donc, monter à cheval, savoir danser ce qu'il faut, savoir avoir une petite conversation à table, ce genre de choses. Mais franchement, on ne leur en demande pas beaucoup plus. Ce sera différent pour la troisième sœur, pour Clémentine. Mais l'idée, vraiment, c'est d'être un parti présentable.
Très vite, vous l'avez dit, Léopold II est convaincu qu'il faut, comme l'a fait sa sœur Charlotte et lui-même, assurer une union matrimoniale entre les Saxe-Cobourg et la famille impériale d'Autriche-Hongrie. Alors d'abord, il est difficile de trouver mieux dans le Gotha que cette famille à l'époque. Ensuite, rien de tel que de renforcer la légitimité de notre jeune royaume de Belgique. Il va donc protéger, consolider, comme on a dit, la couronne en quelque sorte. On parle ici d'une vraie négociation.
C'est une négociation politique et diplomatique, et je dirais même économique, en fait. Le problème, c'est que le premier mariage, celui de Louise, avait été, selon Léopold II, un brouillon, et clairement dit, un échec. Elle avait épousé un cousin Cobourg, âgé presque de deux fois son âge, et en plus, un homme, ça je parle de Louise, donc, un homme, il n'y avait vraiment rien qui les réunissait, mais en plus, un homme qui traînait une réputation un peu sulfureuse. Donc, c'était un échec ressenti tel quel pour Léopold II, donc c'était, je le répète, un brouillon. Il fallait faire une grande réussite diplomatique pour la deuxième. Et là, en l'occurrence, difficile de faire mieux que d'aller trouver l'héritier de cet empire. Alors, l'empire, aujourd'hui, on a un petit peu oublié ce que c'était, mais l'empire autrichien, austro-hongrois à l'époque, en fait, c'est en fait ce qu'on appelle la Mitteleuropa, c'est-à-dire cette espèce de chose qui qui ne ressemble. Alors, sur la carte, c'est splendide. Dans les faits, c'est autre chose, car l'édifice est en train de s'écrouler. Il mettra longtemps à s'écrouler, mais il va s'écrouler pendant plusieurs décennies. Mais dans les faits, ça reste très prestigieux, parce que Vienne, allez-vous balader à Vienne aujourd'hui, Vienne est une ville extraordinaire, mais Vienne aujourd'hui est la capitale d'une petite république alpine, alors qu'à l'époque, Vienne, et c'est pour ça que tout est démesuré à Vienne, Vienne est la capitale d'un empire gigantesque plurinational. Et tout le monde se retrouve à Vienne, différentes religions, différents peuples, différentes ethnies, comme on dit aujourd'hui, et tous ces gens, en fait, se retrouvent et concourent à faire de cette ville le creuset de cette fameuse Middle Europa. À côté de ça, il y a un problème, c'est que la famille impériale se pose de nombreuses questions, parce qu'elle est, je dirais, assez éclaté. Il y a d'un côté un empereur qui est François-Joseph qui, en fait, veut absolument sauvegarder l'héritage. C'est ça son obsession. C'est un homme, pour le coup, alors là, lui, il est raide, mais il est complètement raide. C'est-à-dire qu'il ne, c'est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire, c'est le premier fonctionnaire de l'État. Et c'est un gros bosseur. Il se lève très tôt. Il veut absolument avoir un regard sur tout. Il a zéro créativité et inventivité politique, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Enfin, lui, en tout cas, il veut transmettre intact à son héritier son héritage, c'est la mission qu'il s'est fixée. Et là, vous avez à côté de ça, vous avez Sissi, la fameuse Sissi, qui en fait est Elisabeth, qui n'a rien à voir avec la Sissi qu'on a pu retrouver dans les films avec Romy Schneider, qui est une femme qui est torturée, qui est une femme qui est souvent, enfin, qui peut paraître odieuse vis-à-vis de ses ennemis, mais qui est assez jolie, en fait, qui exprime comme ça, voilà, un peu un rêve, mais qui est complètement faux, en fait, parce que bon, elle n'aime pas son rôle, elle déteste Vienne, elle n'aime pas trop les Autrichiens, elle va passer toute sa vie, en fait, à lutter contre un destin dont elle n'a pas vraiment voulu, mais dont elle espère quand même récupérer les avantages, donc elle a un jeu très, très ambigu par rapport à ça. Et puis vous avez un héritier, Rodolphe, qui est un peu le chouchou à sa maman, hein, c'est-à-dire que Sissi l'adore, et qui lui est tout le contraire de son père. Alors, il a une certaine intelligence politique, lui, parce qu'il a compris qu'il va falloir aller vers un régime, il faut toujours faire attention en utilisant les mots, je dirais plus libéral, j'ai pas envie de dire plus, d'une certaine manière c'est plus moderne, mais en tout cas une certaine ouverture. Attention, on parle pas encore de la monarchie constitutionnelle telle qu'on la connaît dans les monarchies constitutionnelles aujourd'hui en Europe au 21e siècle, mais en tout cas une certaine ouverture qui romprait avec le schéma autocratique d'application jusque-là dans ces grands empires. Et donc ça, lui, il a vraiment envie de ça, il se flatte en fait de modernité, et puis il fréquente des intellectuels. Alors ça, c'est pour le côté intellectuel des choses, mais il fréquente pas que ça à Vienne, parce que Vienne est une ville où on s'encanaille, c'est une ville où on boit, où on fume, où on se drogue, où on couche beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de maisons de tolérance qui sont pour le coup très tolérantes à Vienne, et en fait, c'est un... Il ne s'interdit rien. Et bon, alors ça, son père le sait peu, il essaye de fermer un peu les yeux, et parce qu'il déteste le scandale, bien sûr. Alors, sa mère, Elisabeth, le sait aussi plus ou moins, mais elle lui passe tout. Et notre Stéphanie est très, très loin de ça. Alors, qu'est-ce qui guide Léopold II ? Eh bien, l'idée aussi, parce qu'il connaît quand même son histoire, et même si les Cobourg sont en Belgique depuis pas très, très longtemps, les Habsbourg ont régné sans discontinuer, en fait, depuis le duché de Bourgogne, depuis l'arrivée de Maximilien, jusqu'à la chute de l'Empire en Belgique, en tout cas, jusqu'à la Révolution brabançonne, c'est-à-dire Joseph II et puis Léopold II, l'Autrichien, pas le Belge. Mais donc, ça veut dire que, en gros, depuis le 16e siècle jusqu'au 19e siècle, eh bien, la Belgique sera Habsbourg. Donc, dans les faits, au niveau du symbole, c'est vraiment une réussite éclatante que de réussir un mariage pareil.
Cela dit, vous l'avez évoqué, Sissi, elle n'est pas très enthousiaste par rapport à cette union.
Alors Sissi est convaincu d'avoir le meilleur fils du monde, le plus beau fils, le plus intelligent, le plus sympathique, le plus doué, le plus sportif. Donc elle joue un peu le rôle comme ça de la belle-mère, comment vais-je dire ça de façon polie, mécontente. Personne ne sera jamais à la hauteur de ce que Rodolphe est, ni à la hauteur de l'image qu'elle peut avoir d'une famille que pourtant elle déteste en même temps. Mais ça, c'est tout Sissi, elle est terriblement ambiguë, elle l'aime, elle déteste en même temps, elle veut, elle ne veut pas, elle n'est jamais très précise dans ses choix. fois. Donc, dès le début, c'est une mission impossible. Alors déjà, elle avait vu arriver la grande sœur Louise, qui avait épousé son cobourg qui vivait à Vienne, et elle la considérait vraiment, mais alors, comme une espèce de provinciale mal dégrossie, qui en plus jouait à jeter des œillades, en fait, au bal de la cour, parce que bon, les bals de la cour à Vienne, ça faut quand même bien le dire, c'est encore l'endroit où on s'amuse. Autant on s'ennuie fermement à Bruxelles, puisqu'il y a peu de bals, il y a des bals, il y en a très très peu, il y en avait déjà très peu sous Léopold Ier, ce sera encore pire sous Léopold II. On connaît le fameux mot de Léopold II, la musique est un bruit qui coûte cher, il n'en a absolument rien à faire, il ne veut pas dépenser de l'argent dans toutes ces choses, les toilettes et tout ça ne l'intéresse pas, et ses filles ne pensent qu'à ça, en fait, surtout Louise d'ailleurs, mais Stéphanie aussi est très préoccupée par tout ça, et puis là, je voudrais insister là-dessus, ce qui est vraiment terrible, c'est la faute des mères à l'époque. Alors vous allez me dire, c'est une question d'éducation, ok, certes, mais en fait, on ne prend jamais la peine d'expliquer aux filles ce qui va leur arriver, c'est-à-dire qu'en clair, on va leur dire, vous allez vous marier, vous allez faire des enfants, oui, mais ils naissent comment les enfants, dans des choux, dans des roses, on n'en sait rien, il n'y a aucun mot d'explication donné en termes d'éducation sexuelle, même affective. La pauvre Louise, elle lit des romans à l'eau de rose, aujourd'hui on dirait collection Harlequin, qui sont vraiment très très mauvais, et sa mère lui dit, arrête de te mettre ça en tête, l'amour, ce sont des mauvaises idées, tu ne dois pas y penser à l'amour. L'amour, c'est un sentiment dangereux, surtout quand on est une princesse, et alors les nuits de noces sont toujours une catastrophe totale.
En mai 1881, donc quelques jours avant le mariage, l'arrivée de la princesse Stéphanie en Autriche, qui n'a que 15 ans à ce moment-là, rappelons-le quand même, eh bien, cette arrivée ne passe pas très bien. L'accueil est glacial et les critiques fusent. Donc ça a dû être très dur pour elle.
Oui, parce que on lui a présenté ça comme un avenir extraordinaire à Bruxelles. C'est-à-dire que tout le monde lui disait, mais quelle chance tu as ou vous avez, hein, ça dépend de quel degré de proximité on peut avoir avec la jeune femme, enfin, qui est plutôt une jeune fille, hein, d'ailleurs. La constitution du trousseau, c'est important, et puis les négociations aussi au niveau de la dot, tout ça. Ça, c'est vraiment l'aspect contractuel des choses. Mais c'est vrai que et puis en plus, elle a ces fameuses miniatures, en fait, hein, c'est-à-dire qu'elle a vu à quoi pouvait ressembler Rodolphe. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, on va le trouver peut-être pas complètement au sommet de la sexy attitude pour les hommes, mais à l'époque, il est considéré comme un des plus beaux princes d'Europe. Il a cette espèce de coiffure, et puis cette espèce les favoris à la rouflaquette et la barbe Habsbourg, qu'il porte très bien, un regard un peu mélancolique. Et elle rêve, en fait, devant ce portrait, et elle est convaincue que ce sera l'homme de sa vie. Elle est amoureuse d'une image. Ça ne fait aucun doute, même si une fois de plus, je le répète, elle ne sait rien des choses de l'amour. Mais elle est amoureuse d'une image. Lui, il sait déjà bien ce que c'est que les choses de l'amour, du sexe et de l'intimité. Mais néanmoins, il ne s'oppose pas à ce choix. En fait, la plus critique, c'est probablement, une fois de plus, Elisabeth, qui voit arriver cette Stéphanie. Alors, elle la trouve... alors déjà, elle lui reproche, en fait, ses airs de paysanne. Hein. Elle trouve qu'elle est mal fagotée, qu'elle ne sait pas se tenir, qu'elle a des grosses bajoues de hamster. Alors, elle lui trouve tous les surnoms, hein, très rapidement. Elle va l'appeler le dromadaire. Enfin bon, c'est pas très, très sympathique de la part d'une belle-mère. Alors, elle ne s'en rend pas tout de suite compte, Stéphanie. On verra, un peu plus loin, que... elles vont trouver un modus vivendi, ces deux femmes, bizarrement. Moins elles se voient, mieux elles se portent. Mais bizarrement, ça arrangera les deux. Mais en tout cas, quand elle arrive, ce n'est pas l'enthousiasme délirant. Mais néanmoins, Stéphanie, accueillie dans cette ville qui est un phare de l'Europe, un phare artistique, un phare culturel, elle en prend plein les yeux et elle se dit, un jour, je serai l'impératrice de ce gigantesque empire.
Oui, c'est en tout cas ce qu'elle a dû se dire le 10 mai de la même année, hein, dans l'église des Augustins à Vienne, la même justement où François-Joseph s'était dit oui, mais d'autres beaux mariages, comme Napoléon et l'archiduchesse Marie-Louise, s'étaient tenus dans cet endroit. Donc on voit bien un problème qui surgit entre Stéphanie et Elisabeth. Elle fait tout pour plaire, mais elle ne plaît pas. Mais il y a un autre problème, et vous l'avez déjà évoqué, mais on va peut-être rentrer un peu plus en détail. Son mari, Rodolphe, est de plus en plus critique par rapport à la gestion de l'Empire, et lui se voit déjà tout transformé.
C'est vraiment paradoxal, cette histoire, parce que vous avez d'un côté un mariage qui est un mariage purement politique. On l'a dit, Stéphanie amoureuse d'une image et d'un futur brillant qu'on lui promet. De l'autre côté, Rodolphe qui n'est pas du tout enthousiaste, mais qui voit dans ce mariage une façon de s'affirmer en tant qu'homme et que prince héritier. C'est-à-dire que marié, il va... probablement devenir père, hein, c'est forcément ce qu'on lui demande. Et à partir de là, sa position au sein de cette couronne va être confirmée. Et donc, il poursuit. Ils ont tous les deux des agendas différents, mais il y a une certaine union de, je dirais, de raison qui se fait. Mais ce qui est étrange aussi, c'est que même si, en fait, parce qu'au début, l'ambiance entre eux n'est pas du tout catastrophique. Ça n'a rien à voir, par exemple, entre le premier mariage de Louise et de Philippe, hein, de sa sœur aînée. C'est vraiment plutôt un mariage qui se passe une fois de plus dans l'intimité, pas trop mal, parce que en fait, ils ont tous les deux des rêves, mais ce sont pas les mêmes rêves. Et en plus, ils n'ont pas du tout la même personnalité. Et ce qui est paradoxal, c'est que Rodolphe, lui, il espère trouver quelqu'un qui va devenir un appui, qui va l'aider justement à affirmer ses positions, ses ambitions libérales. Et à côté de ça, vous avez Stéphanie qui, elle, veut jouer tout simplement, j'allais dire bêtement, passez-moi l'expression, ce rôle de princesse, enfin héritière, de future impératrice. Voilà, elle doit y travailler. Et alors bon, Rodolphe, il la prend à témoin par rapport à ses idées réformistes, en trouvant que son père ne règne pas comme il faut, qu'il est trop riche, qu'il est trop militaire, qu'il est trop fonctionnaire, alors que tous ces peuples, en fait, parce que cet empire, c'est une mosaïque de peuples avec des langues, des religions différentes, des origines différentes, eh bien, mais parce que l'Autriche, c'est la Mittel-Europa, mais sur les Balkans, c'est le nord de l'Italie, c'est vraiment un monde en soi, cet empire Habsbourg. Et alors, il espère trouver en Stéphanie une alliée, et en fait, non, parce que Stéphanie, elle est le produit de son éducation, elle est très pieuse, elle est, alors s'il fallait utiliser aujourd'hui des comparaisons qui ne valent jamais raison, mais tant pis, on y va. Lui, il serait progressiste avec des tendances libérales un peu de gauche, et elle est complètement réactionnaire, très catholique et à la limite très traditionnaliste, comme on dirait aujourd'hui. Donc, résultat, ils n'ont absolument rien en commun, si ce n'est ce couple qui a été rédigé sur papier. Alors, lui, il est déçu et elle ne le comprend pas.
En septembre 1883, Stéphanie donnera naissance à une fille, Elisabeth Marie, surnommée Herzi. Alors, pas de bol, hein, donc disons-le comme ça, c'est une fille et donc pas un héritier mâle comme attendu.
Alors, pas de chance, certes, mais c'est une première enfant, donc c'est pas non plus dramatique. Il y a toujours forcément moyen, je dis ça avec plein de guillemets, de faire mieux. Donc, c'est-à-dire que, mais c'est un peu comme en Belgique, c'est-à-dire que la dynastie attend un fils pour pouvoir justement un petit peu redorer son blason. Mais en même temps, en donnant un enfant, à naissance un enfant assez rapidement, même si c'est une fille, c'est quand même rassurant pour la cour, parce qu'on dit ben voilà, elle est parfaitement capable.
Elle sait le faire.
Elle peut faire le job. Et si, voyez, je vous disais, ces grosses bajoues, elle regardait aussi un peu, c'était une obsession, la largeur des hanches, hein, pour savoir si oui ou non la femme était capable de porter un enfant et donc d'assurer la pérennité de la dynastie. Une fois de plus, on ne lui demande rien d'autre. Le problème, c'est que Stéphanie, elle est un petit peu naïve. Elle ne sait pas que son mari, tout en jouant toujours son rôle quand même de mari plus ou moins attentif à la maison, beaucoup plus, par exemple, que, enfin, à ce moment-là, la vie de couple entre Stéphanie et Rodolphe est beaucoup plus harmonieuse, par exemple, que la vie de couple de Léopold II et de Marie-Henriette à Bruxelles. Ils sont plus proches. Mais il est souvent absent, alors pour des raisons de travail, d'armée, que sais-je. Mais il ne fait pas uniquement que bosser, il va aussi justement courir ses maîtresses à Vienne. Et c'est là que le drame va se nouer.
Oui, au point de choper, façon de parler, une maladie honteuse, hein, la syphilis. Il la partagera d'ailleurs avec son épouse Stéphanie, ce qui la rendra stérile.
Alors, ça sera un terrible drame pour elle. Hein. Ça sera un terrible drame parce qu'elle va lui en vouloir. Une fois de plus, quand je vous disais, elle n'y connaît rien, elle n'est absolument pas préparée à cela. Alors, il y a bien des échos qui lui reviennent petit à petit, parce que forcément, ça jase, ça cancane. Mais de là à vivre ça elle n'en sait rien. Et elle est loin de pouvoir imaginer à ce moment-là que cette maladie va la rendre stérile.
Donc, face à cette attitude désinvolte et rebelle, hein, de l'héritier de son mari, comment vont réagir les parents, c'est-à-dire François-Joseph et Sissi ?
Alors, c'est assez particulier parce que c'était le parent des deux côtés. C'est-à-dire que, surtout Marie-Henriette continue, au départ de Bruxelles, à donner des instructions à ses filles quand elle peut encore les donner. Hein. Alors, comme Louise est en train de se déconsidérer, enfin, c'est déjà déconsidéré, l'idée, c'est de dire tu ne parles plus à ta grande sœur. Donc, elles sont toutes les deux à Vienne, mais elles ne peuvent pas se rencontrer. Déjà, ça se paraît déjà assez étonnant. Et puis, alors, de l'autre côté, il y a Sissi qui joue un double jeu. Alors, d'un côté, elle est contente. On en parlait tout à l'heure sans le détailler. Elle est heureuse. Pourquoi ? Parce que il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui une first lady dans l'Empire. C'est-à-dire que, comme elle, ça ne l'amuse absolument pas de jouer ce rôle d'impératrice lors des présentations, des réunions, des bals, toutes ces choses. On l'appelle l'impératrice locomotive. Elle n'a qu'une seule envie, c'est de quitter cette ville qu'elle déteste, à tel point qu'elle refuse même d'avoir un lit traditionnel pour dormir. Elle dort dans un lit de camp pour donner toujours l'impression que c'est son dernier soir juste avant de partir ailleurs. Alors elle voyage et elle a Hongrie, mais bon, elle aime surtout la Hongrie parce qu'elle sait que ça ennuie les Autrichiens et qu'il y a vraiment un gros œuf à peler entre l'Autriche et la Hongrie. Et puis après ça, il y a sa villa à Corfou, ses voyages en Italie. En fait, bon, elle essaye simplement de ne pas être là. Du coup, il faut quelqu'un pour jouer ce rôle. Et donc, voilà que bras dessus, on voit l'empereur François-Joseph avec sa belle-fille Stéphanie qui joue très bien d'ailleurs ce rôle de représentation. Alors, certaines trouveraient ça très ennuyeux parce que ça n'a rien d'exaltant hein, de rester comme ça debout, de serrer des pinces, de faire des révérences. Enfin, tout ça n'est pas très drôle, mais elle trouve vraiment son accomplissement de princesse et elle est persuadée de bien remplir son rôle. Il y a une vraie proximité d'ailleurs entre le beau-père et la belle-fille à ce moment-là. Ce sera d'ailleurs dans la cour, je dirais, son meilleur moment, sa meilleure période. Mais en même temps, il y a des bruits qui émanent, qui arrivent, enfin qui émanent de des quartiers viennois, et puis qui remontent vers la cour et qui laissent entendre que le comportement de Rodolphe est loin d'être sans tache. Alors, si, une fois de plus, soit elle n'est pas là, soit elle ferme les yeux, soit quelque part, elle se réjouit un petit peu du malheur de cette belle-fille qu'elle n'aime pas. Et à côté de ça, François-Joseph, lui, ne veut rien entendre. Il a l'habitude, raide, sourd quand ça l'arrange. Ce ne sont que des calomnies et il ne veut rien savoir. Parce que, en fait, pour lui, il estime, dans sa rigidité toute germanique, en fait, que le mariage a été fait, que la feuille de route est claire pour l'un et pour l'autre. Et que forcément, eh bien, les choses finiront par s'apaiser.
Parmi toutes ces conquêtes féminines, Rodolphe va tomber fou amoureux d'une jeune baronne autrichienne de 17 ans. Elle s'appelle Marie Wetzera. Elle est sublime, mais elle est aussi très calculatrice, car elle fait tout pour rencontrer Rodolphe à diverses occasions.
Oui, il y en aura vraiment beaucoup. Hein, cette relation ne va pas durer très très longtemps. C'est vrai qu'elle est assez intrigante, parce qu'en fait, tout le monde, je veux dire, qui fréquente le high life à Vienne à l'époque, sait très bien que Rodolphe est infidèle et qu'il multiplie les conquêtes. Mais on est quand même au 19e siècle. Et là, c'est quand même important de le dire, parce que ce qu'un Louis XIV a pu faire au 17e ou un Louis XV au 18e n'est absolument plus possible au 19e siècle. La morale victorienne, entre guillemets, est passée par là. C'est-à-dire que même si les hommes peuvent continuer à avoir des maîtresses, et c'est plutôt bien vu d'une façon globale, parce qu'on dit, bon, ils ont la santé, hein, forcément, les hommes peuvent le faire, mais si les femmes le font, alors elles deviennent des prostituées. Ça, c'est tout à fait injuste, mais c'est la morale du 19e siècle. Mais néanmoins, on ne le fait plus, c'est-à-dire qu'un souverain ne peut plus entretenir un harem comme le faisait, je le répète, Louis XIV ou Louis XV, ou vraiment propulser des favorites comme ça au premier plan, ça ne se fait plus vraiment. Ou en tout cas, il faut vraiment être bien installé pour pouvoir se le permettre. Alors, Rodolphe, il est loin d'être installé, c'est le prince héritier, on en est vraiment très très loin. Mais néanmoins, beaucoup rêvent de s'approcher du soleil, et notamment cette Marie Wetzera, qui n'est pas une lumière. Mais bon, elle est nettement plus jolie que Stéphanie, et elle est nettement plus délurée, et elle est nettement plus drôle aussi, en fait. Parce que, à partir du moment où Stéphanie commence à comprendre ce qui se passe, qu'il y a eu cette maladie, et qu'elle risque de ne plus pouvoir enfanter, alors là, les relations changent carrément dans le couple, en fait. Et elle lui en fait grief, et là, on peut imaginer, on n'était pas là pour le voir, mais on peut imaginer les scènes, bien sûr. Et puis alors, elle va aller, ce qui est presque inconcevable dans son esprit, elle va trahir son époux en allant chez son beau-père, en allant chez François-Joseph et en expliquant ce qui se passe et en disant, voilà, il est dans un sale état. Parce que bon, là, on parle des affaires de fesques, alors c'est ça, mais à côté de ça, il y a la boisson, il y a la drogue qui font partie vraiment du quotidien. Parce qu'au fur et à mesure que lui, en fait, c'est un pessimiste total. Il est persuadé que l'Empire court à sa perte. Il a raison, ça ne sera pas dans les jours qui suivent, ça sera dans les décennies qui arrivent. Mais il a parfaitement raison, et comme face à son père, il rencontre un mur. Et bon, son père, il est en pleine santé, il est encore relativement jeune, et il va avoir, pour le coup, il va régner vraiment longtemps, il va enterrer cet empire, François-Joseph. Et lui, il estime que sa vie n'a pas de sens, en fait. Une fois de plus, je ne suis pas médecin, mais il est probablement en dépression.
On va en arriver quelque part à l'élément dramatique et essentiel de cette histoire, c'est le fameux drame de Meyerling. Donc, on retrouve un matin l'héritier avec sa maîtresse dont on a parlé dans un lit mort.
Et là, c'est un scandale gigantesque. Et comme on est chez les Habsbourg, qu'on est à Vienne, et que, en plus, on ne peut pas imaginer à un moment que la vérité soit possible, c'est vraiment complètement impossible et surtout inenvisageable et déshonorant. Donc, il faut inventer une histoire.
Donc, la vérité, ce serait suicide de ce couple adultère.
Alors, voilà, il faut inventer cette histoire et donc... la vérité, on y viendra, la vérité. Parlons d'abord de cette histoire inventée, justement, qui est face à cette réalité, c'est-à-dire ces deux corps. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, alors, voilà, pavillon de chasse. Qui dit pavillon de chasse, qui dit chasse, dit fusil. Qui dit fusil, dit il faut nettoyer son fusil, hein, après la chasse. Et voilà que notre Rodolphe nettoie son fusil, un coup part accidentellement. Et voilà que, donc, il se tue, mais, comme on dit à Bruxelles, ça veut justement réussir, donc il est bien échu que, eh bien, que le coup de feu parte, il tue Rodolphe et sa maîtresse en même temps. Ce qui est complètement inconcevable, bien évidemment. Ça n'est pas nouveau, je veux dire, il y a eu plein de morts, un jour on pourrait faire une série là-dessus, mais du pape Jean-Paul Ier à Grèce de Monaco, en passant par Diana, l'accident qui a tué le frère aîné de Juan Carlos, il y en a plein comme ça des exemples, où quand la vérité est insupportable, eh bien on essaie un petit peu de l'accommoder. Parfois pour des détails, hein, ça, parfois d'ailleurs ce ne sont pas des secrets d'État, mais on veut, pour une personnalité pareille, que la mort soit là, entre guillemets, plus belle possible, la plus acceptable possible. Et là donc on invente cette histoire qui est complètement incroyable et impensable. Et donc, on essaye de propager cette info dans toutes les cours d'Europe. La vérité, elle est vraiment cette vérité du suicide. Alors comment ça s'est passé exactement, personne ne pourra jamais exactement et précisément le décrire. Ce qui est sûr, c'est que voilà, lui, il s'est tué. Alors est-ce que il a tué Marie, comment, dans quelles circonstances, est-ce qu'elle s'est tuée elle-même, c'est peu probable. En tout cas, il était tellement loin dans cette espèce de détestation de l'existence et dans cette dépression que il a été jusqu'à la convaincre d'une vie éternelle à deux, loin de tous ses soucis terrestres. Ça, c'est la réalité des choses. Mais le scandale, il est gigantesque. Alors même si on fait semblant de croire à l'histoire inventée par la cour sait très bien ce qui s'est passé, les gens sont pas idiots, ils le comprennent aussi, et puis Bruxelles l'apprend aussi rapidement. Et ça, c'est un désastre. C'est un désastre humain, mais franchement, on s'en fiche un peu, hein, même si... Franchement, François-Joseph et Sissi sont sincèrement atteints par la mort de leur enfant. Mais c'est un désastre politique. Et qui dit désastre dit coupable. On cherche un coupable et on cherche une coupable, en l'occurrence. Et la coupable, ce sera Stéphanie, tout simplement. Parce que qu'est-ce qu'on demande à une femme à l'époque? De fermer les yeux, bien sûr, mais quand même de tenir son homme et de sauver son mariage. Et elle n'a même pas été capable de faire ça. Dès lors, tout le monde lui tombe dessus. C'est-à-dire que Sissi lui tombe dessus, mais ça, c'est depuis le début. Ses parents, à Bruxelles, lui font clairement le reproche de cet échec. Et même son meilleur allié, l'empereur, va aussi lui reprocher, ce qui est parfaitement injuste, car elle l'avait prévenu, elle avait tiré la sonnette d'alarme en disant « on va vers un drame ». Elle l'avait senti, peut-être pas sous cette forme-là, mais elle l'avait vraiment imaginé, et elle avait partagé sa crainte, et malheureusement, tout s'est concrétisé.
Donc tout se retourne un peu contre cette pauvre veuve. Avec la mort de Rodolphe, l'Empire doit aussi se trouver un nouvel héritier, puisque cela ne pourra pas être une fille, hein, la fille du défunt et de Stéphanie. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer à ce niveau-là?
Ben, on va aller chercher le fameux François Ferdinand qui de son côté en fait qui est un neveu et qui lui pourrait incarner le futur de cette dynastie qui est fragile du coup, enfin qui paraît beaucoup plus fragile. Alors ça c'est une grande spécialité de notre roi Léopold II qui est d'essayer d'organiser des mariages. Alors Léopold II, personnage très compliqué, qui est quand même un redoutable politique, ça c'est certain, mais il a un grand handicap par rapport à son père. Son père était plutôt un excellent marieur, Léopold Ier. S'il n'avait pas été roi, aurait pu ouvrir une agence matrimoniale dans les hautes sphères sans aucun problème. Léopold II, il s'est presque toujours planté par rapport à ça. Et donc, il aime bien aussi les mariages familiaux, mais intra-familiaux, avec des cousinages très proches. Il avait déjà essayé de marier sa fille Clémentine avec le prince Baudouin, son cousin. Et là, il va essayer de pousser un mariage. Et François-Joseph est assez d'accord aussi entre François-Ferdinand et justement Stéphanie, disant, ben voilà, si elle est dispo, elle est veuve, donc, elle est une espèce de princesse douairière. En fait, elle a un rôle bâtard, atroce à tenir à la cour, parce qu'elle ne sert plus à rien. Je veux dire, elle n'est même pas la mère de l'hérité. En fait, elle est un remords vivant. Qu'est-ce qu'on fait d'un remords vivant? Soit on l'écarte pour ne plus le voir, mais malheureusement, elle est maman, elle ne va pas prendre les ordres. Dans un couvent, elle sert très bien, mais elle n'a aucune envie d'aller dans un couvent. Ou alors, on en fait quelque chose d'utile, c'est-à-dire qu'on prend ce mariage et on la recycle. Tout à fait, c'est ça. Les termes sont bien dits, même s'ils sont terribles. Mais François Ferdinand ne veut pas en entendre parler. Hein. Il est amoureux de son côté. Il va d'ailleurs ferrailler pour imposer ce mariage tout à fait inégal avec sa chère Sophie. Et de son côté, ben Stéphanie va se trouver dans une drôle de position. Il va vraiment falloir lui trouver un futur. Le problème, c'est qu'elle était déjà amoureuse et qu'elle avait déjà eu une relation même du vivant de Rodolphe, car on a vu un petit peu marre d'attendre. Et elle va un peu comme sa sœur. On va dire, voilà, c'est comme sa sœur. C'est une femme infidèle, alors que franchement, la pauvre avait été quand même très, très, très patiente. Et à partir de là, ça va aussi être un scandale au niveau international.
Quelles sont les relations qu'elle va garder avec sa propre famille, donc son père Léopold II ?
Très mauvaise, parce que vraiment à ce niveau-là, d'ailleurs, elle va se rapprocher de sa sœur, la fameuse Louise, hein, puisqu'elles vont toutes les deux être mises dans le même sac. En clair, on va leur dire de disparaître. Elles doivent disparaître comme elles ont échoué l'une et l'autre dans la mission nuptiale et conjugale qui leur avait été confiée, qui était une mission avant tout politique et diplomatique. Eh bien, on va leur demander de ne plus se faire remarquer. Alors, elle pourrait faire mille et une choses, mais ni l'une ni l'autre ne vont accepter. Elles vont tomber amoureuses. Stéphanie, dans un premier temps, avec un bel écuyer, et puis dans un second temps, avec Elmer Launier, avec lequel elle va finir par se marier, en fait. Mais ça, c'est quelque chose d'inconcevable. C'est-à-dire, une fois de plus, hein, tout ce qui est accepté et acceptable pour les hommes ne l'est absolument pas pour les femmes. C'est comme si elle tuait une deuxième fois son époux, en fait. Et si, en plus, elle faisait peser le propre sur sa famille, parce qu'en fait, c'est un mariage inégal. Façon, qu'est-ce qu'elle pouvait faire de mieux que d'épouser l'héritier de la couronne Habsbourg? C'était pas possible. Après ce mariage-là, elle ne pouvait que déchoir, en fait. Et elle va vraiment en souffrir. Elle va quand même une période qui sera plus ou moins agréable pour elle. C'est après, justement, la mort de son mari, de son amant, elle va beaucoup voyager. C'est-à-dire qu'elle va garder ce titre de princesse douairière, titre qui ne veut pas dire grand-chose, et voyager un peu comme Sissi, pour le coup, mais vraiment aller vers le sud, visiter l'Italie, la Grèce. Et là, en fait, voilà, elle ne sera pas dans le champ visuel de l'Empire, donc elle dérange moins. Mais chaque fois qu'elle revient, ça se passe mal.
Mais en fait, ce rejet par l'empereur sera aussi un atout pour elle après la Première Guerre mondiale, puisqu'à ce moment-là, les Habsbourg sont chassés du pouvoir, et elle est un peu préservée.
Alors, oui, parce que ce qui est paradoxal, c'est que par deux fois, elle va se retrouver, pendant les deux guerres mondiales, dans le camp des ennemis, en fait, de son propre pays. Pour être tout à fait honnête, en Belgique, on l'a un peu oublié en cours de route. Hein. Les deux aînés de... Alors, Clémentine, la troisième, c'est différent. Mais Louise et Stéphanie, les Belges s'en fichent un peu. C'est pas vraiment une priorité. Elle était vraiment... Mais aujourd'hui aussi, ça nous paraît étrange. Mais à l'époque, quand on épouse un homme, on épouse aussi sa nationalité. Et on épouse, je dirais... En fait, on est obligé de prendre la totalité du package. Et donc, elle était autrichienne, elle n'était plus belge. Et elle appartenait donc au camp d'en face, c'est-à-dire aux forces de l'Axe, hein, comme on dira plus tard, qui vont combattre et attaquer le monde libre, la Belgique, la France et que sais-je. Donc là, elle va quand même, à la chute de l'Empire, être libérée. Donc d'abord la mort de François-Joseph pendant la guerre, et puis l'arrivée de Charles Ier qui essaye d'arranger les bidons, mais c'est trop tard, la dynastie est vraiment tout à fait déconsidérée. Et donc, en fait, elle va essayer d'arranger, elle va essayer de se ménager une place où elle a à la fois sa liberté, mais ce qui est paradoxal, en fait, c'est que sa quête de liberté, elle est très traditionnelle. En fait, c'est pas une révolutionnaire. Elle, ce qu'elle veut, c'est un beau château, un mari... un aristocrate, même s'il n'est pas au niveau de son premier époux, bien sûr. Mais elle en veut, en fait, à ce monde qui évolue vers autre chose. Donc, la chute de l'Empire ne lui fait pas plaisir. Ça lui fait plaisir d'une certaine manière par rapport aux gens qui l'ont détesté et qui ont été durs avec elle. Mais à côté de ça, cette chute de l'Empire ne lui fait pas plaisir au niveau du système. C'est-à-dire que ça sera jamais une révolutionnaire. Or, sa fille, elle va devenir très à gauche et révolutionnaire. Donc, elle coupe les ponts avec sa fille, elle a coupé les ponts avec sa famille. En fait, elle se trouve là avec son cher époux, hein, son obereau hongrois, Elmir Launier, dont elle est vraiment sincèrement et très profondément amoureuse. Et là, ils reçoivent un peu la fine fleur, les souverains détrônés, les vieilles familles aristocratiques qui ressassent un peu leur désespoir face à un monde qui évolue. Et elle se trouve très à l'aise là-dedans, parce que, je le répète, c'est une femme très, très conservatrice.
Alors, dans votre livre, Patrick, vous expliquez que la princesse oubliée mourra dans une abbaye hongroise où elle s'était réfugiée avec son deuxième mari en août 1945. Donc, vous l'avez dit, un décès dans l'indifférence totale, malgré une destinée, malgré tout, tout à fait incroyable. Mais qu'est-il arrivé à sa fille, l'archiduchesse Herzi ?
Mais ce qui est terrible, en fait, c'est que... terrible pour elle, hein, bien sûr, c'est que c'est tout son monde qui s'écroule une deuxième fois, parce que vraiment, à l'article de la mort, ou en tout cas à l'extrême hiver de sa vie, elle se trouve là face aux forces communistes, en fait, qui arrivent, parce qu'il y a eu les deux guerres mondiales, et puis il y a eu forcément cette Europe qui est divisée entre deux camps, et franchement, pour elle, rien ne pouvait être pire que ce basculement dans le camp communiste, et ça, elle va le vivre, ça sera, en fait, je dirais, la fin tragique d'une existence qui l'a été quand même pas mal aussi. Je dirais, elle a coupé tout contact avec cette fameuse Herzi, hein, qui est rentrée dans l'histoire comme étant cette archiduchesse rouge, hein, qui sera à l'origine de cette famille Windisch-Gras aussi très 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 connue. Mais en fait, comme ça avait été compliqué entre Léopold II et Stéphanie, ce sera ingérable entre Stéphanie et sa fille, parce qu'en fait, c'est non seulement deux univers et deux caractères, mais je dirais même c'est deux mondes qui s'affrontent, en fait.
Très bien, merci beaucoup Patrick pour votre éclairage sur l'histoire de la princesse Stéphanie de Belgique. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un livre « Patrick Weber raconte les princesses de Belgique ». Également, « Patrick Weber raconte les couples royaux de Belgique ». Je vous conseille fortement ces livres, c'est vraiment très, très intéressant. Mais cela dit, vous êtes aussi scénariste d'une BD qui vient de sortir, qui s'appelle « Ostende 1905 ». On est là en pleine période de Léopold II. De quoi s'agit-il exactement ?
On était à une période bien particulière, parce que Léopold II va être papa. Sa maîtresse, la baronne Vaughan, Blanche de la Croix, alias Blanche de la Croix, est enceinte de ses œuvres et il espère avoir enfin un fils. Mais bon, ce sera ce qu'on appelle à l'époque un bâtard, hein, un enfant illégitime. Et il aura d'ailleurs deux fils, hein, donnés par cette baronne Vaughan, qui est un clin d'œil étrange par rapport au destin, alors qu'il a rêvé toute sa vie, d'avoir pas uniquement des filles, mais un fils en vie, pour le coup, qui ne seront ni l'un ni l'autre pas des héritiers. Mais comme c'est une BD énigme un peu à la Agatha Christie, en fait. À l'époque, on l'a un peu oublié, mais Ostende, c'est la reine des plages. Léopold II a tout fait pour en faire une station très en vue. Alors, le Ostende d'aujourd'hui a bien changé, mais à l'époque, c'est une ville qui peut soutenir la comparaison avec Monte Carlo, avec Biarritz, par exemple, Deauville, Cabourg, que sais-je. Voilà qu'on retrouve un émissaire du Shah de Perse, l'empereur d'Iran, en d'autres mots, assassiné dans sa baignoire, et à partir de là démarre toute une histoire qui porte ombrage à la couronne, et puis on verra comment il va en sortir avec un personnage qu'on a imaginé, qui s'appelle Ensorne, avec un A. Il n'est pas peintre, lui, il est officier de police, commissaire, en fait, à Ostende, et il va résoudre cette énigme.
C'est une particularité de la BD, hein, vous mélangez un peu la réalité et la fiction.
Et comme la question est chaque fois posée par la suite, en fait, on prévoit un cahier didactique en fin d'album pour que les lecteurs, parce qu'ils me posent chaque fois la question pendant les séances de dédicace, ça revient tout le temps. Oui, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Et donc, c'est vraiment l'idée, parce que moi aussi, en tant que lecteur, j'ai parfois ce souci. Et je me rappelle quand j'étais gamin et que j'ai lu Les Trois Mousquetaires, je disais, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Est-ce que vraiment Richelieu était tellement méchant? Est-ce que vraiment D'Artagnan a existé? Toutes ces choses. Et je pense que c'est intéressant, c'est qu'on peut utiliser l'histoire pour raconter des histoires. C'est bien après ça de remettre les pendules à l'heure ou, en l'occurrence, l'église au milieu du village.
Avec la série de Chrome de Netflix, on a le même problème. Il faut expliquer la différence.
Mais heureusement que fiction est indiquée maintenant, parce que là, franchement, c'était malhonnête de ne pas le dire.
Merci Patrick. Ce podcast a été réalisé par Alexandre Dumont. N'hésitez pas à partager, noter, commenter l'ensemble de nos podcasts Parlons d'Histoire. Et pour ma part, je me réjouis de vous retrouver bientôt pour un prochain épisode.